2. Play.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 3 février 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Éphémère s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer...
Pour commencer
maintenant, c'est le supplément week-end avec le débrief d'Angoulême et la partie télé suivie de ça c'est du sport à 13h, le résultat en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite
à 15h du mix avec Zarma Faris et du reggae, 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, 19h Happy Hour, 20h la Cétéro Expérience, 21h30 Love Love et Nouveauté, 23h séquence live. Elle est bien cette centième là, je la sens là.
Ah mais t'as oublié de dire que c'est la centième aujourd'hui.
Eh oui, c'est la centième du supplément week-end, Simone. Et aujourd'hui en plus on revient d'Angoulême, donc il y a tout, il y a une nouvelle inauguration, un nouveau jingle et tout.
Un nouveau t-shirt.
Ouais. Et à 23h il y a les rediffusions des concerts qui ont été enregistrés. Ce soir c'est le concert punk qui a été fait pour les 25 ans de Radio Éphémère. Tu sais, le concert où j'ai fini un peu puant.
Oui, entarté, oui.
Voilà. J'ai appris qu'il vaut mieux quand même de la mousse à raser, si possible sans alcool, quand vous entartez quelqu'un.
Oui,
quand c'est un copain, bien sûr.
Tu as intérêt à bien te tenir pendant cette émission, sinon ça risque de finir sur le net, cette vidéo.
Bon, rien à foutre. Allez, un vieux classique. Le single venait de sortir quand j'étais rentré à la radio. Et c'est pas Nirvana. Microsoft. Smells like Teen Spirit.
Thank you.
Ouais, il pète bien le nouveau jingle d'ouverture. Content, oui, oui, content, oui. Content.
T'as bien mixé, c'est bien, t'as bien travaillé. Tu as un remerciement à adresser à la personne qui a fait le message à caractère informatif.
Oui,
elle nous écoute en ce moment.
À Sabrina, merci beaucoup. Sabrina qui est aussi une illustratrice et on peut retrouver les travaux sur sabilus.com
avec deux L.
Voilà. Nous, on a aussi à remercier deux personnes. Bernard et Bernadette qui nous accueillent chaque année à Angoulême,
oui.
Et dont on est revenu de la 34e édition. Et comment dire,
c'était verglacé, ardu,
ah
froid,
oui, mais cette année, attention, c'était la deuxième fois où il y avait de la neige à Angoulême. Je rappelle quand même qu'avec le dérèglement climatique, c'est assez surprenant qu'il y ait de la neige en hiver. Dernier week-end de janvier. Mais surtout, cette fois-ci, il a neigé avant. C'est-à-dire, cette fois-ci, je ne me suis pas retrouvé en chaussures en toile avec 20 cm de neige. Une grosse tempête de neige, tu vois, avec 20 cm, j'étais gelé. Là, non, cette fois-ci, on était bien couverts et tout ça. Et pourtant, cette année, le Festival d'Angoulême avait tout pour être annoncé. Il fut prophétisé, catastrophique et tout le reste. Ça va être la faillite du festival et tout le reste. C'est cette fois-ci le salon des éditeurs, c'est-à-dire l'endroit où il y a toutes les grandes librairies et tout le reste, eh ben, était très excentré par rapport au centre. Pour nous, non, ça allait très bien, c'était à 5 minutes à pied. Il n'y avait pas d'exposition.
5 minutes, t'es gentil, toi.
Bon, 10 minutes. Hein. Enfin, avec verglas.
Un bon quart d'heure, alors.
Non, avec le verglas, on y arrivait en 5 minutes. Hein. on se l'a joué Silver Surfer. Et tout le reste, il n'y avait pas d'exposition qui était consacrée au président Trondheim. Il ne souhaitait pas ce qu'il y ait une exposition. Il y a eu des changements au sein des patrons de l'organisation, puisque Jean-Marc Thévenet, qui était le directeur de l'organisation du FIBD, a été viré pour pantouflage. Évidemment, dans les Charentes, ils sont plutôt susceptibles. Eux, ils font des charentaises. Et l'habitude des gros éditeurs de menacer de ne pas venir. Cette année, c'était Casterman qui ont dit « Oh, ça va être une catastrophe, on vient pas, on dépense trop de fric » et tout le reste. Enfin bon. L'habituel.
Heureusement qu'ils étaient là.
Heureusement qu'ils étaient là, ouais. Et la volonté affichée de Trondheim de, je cite, foutre le boxon. Bah finalement, c'était très bien. Hein. Nous, on y est allés, Thomas et moi, avec la double étiquette, Radio FMR et ActuaBD.com. Et le samedi, on peut vous confirmer, c'était bondé comme d'hab, sauf que c'était pas dans la vieille ville d'Angoulême, donc ça se sentait un peu moins finalement. C'est ça qui faisait un peu toute la différence. Ensuite, Lewis Trondheim a créé une nouvelle mascotte pour le festival. Je rappelle que de 1974 jusqu'en 88, c'était les Alfred, le nom du pingouin de Ziggy Puce. Qu'en 89, quand est sorti l'album Alpha, Tintin et l'Alpha, et ben ça a été les Alpha, avec la bénédiction d'Hergé. Qu'ensuite, la situation a pas mal chuté avec donc la fondation Hergé, notamment... À propos du parc d'attractions autour de Tintin, la fusée lunaire qui devait être placée, ils ont trouvé trois endroits où c'était pas possible de la mettre. Bref, ça a coûté un fric fou à la ville. Et donc Nick Rodwell, qui est celui qui est en charge des droits d'Hergé, a dit « Bon, ben moi j'en ai ras-le-bol, etc. Je vais faire payer le festival pour utiliser le nom Alpha. » Donc l'an dernier... Ça s'est appelé les prix d'Angoulême, hein, c'était un peu ridicule. Et là, cette année, ben, Lewis Trondheim a créé une nouvelle mascotte. Un chat en noir et blanc, proche des strips, qui pouvait se fondre dans quasiment tout univers. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à le mettre dans un univers SF, à le faire dans un strip, des trucs comme ça. C'était plutôt sympa. Et le prix, donc, est en 3D. C'est un trophée qui a été réalisé par Leblon de Lienne, qui est connu pour ses adaptations de personnages en 3D.
Oui, ce sont des grosses maquettes de collection,
pas,
on va dire.
C'est pas des maquettes, hein, c'est des statues.
C'est des statues de personnages célèbres comme Zorglub ou... qu'on pouvait voir Spirou, Tintin, tout ça, qui sont très jolis et qui ont un rendu qui est parfaitement fidèle aux bandes dessinées.
Et ben là, cette année, donc c'était le fauve, l'espèce de champ noir et blanc qui était le trophée et qui va être le trophée avec, attention, il y a eu un gros lors de la remise des prix, quand on a vu le prix, l'album Révélation de Révélation, c'était un trophée en or.
Bon, je l'ai doré en tout cas.
Doré en tout cas. C'était vraiment du plus bel effet. Thomas était au premier rang, donc il peut confirmer que c'était très 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 joli et bien foutu. Bref. On s'est éclaté. Par contre, on n'a pas explosé notre budget. Moi, personnellement, je n'ai acheté qu'un seul artbook et même pas un seul coffret DVD ou un CD. Alors que d'habitude, à Angoulême, je m'en achète 2-3 coffrets DVD. Pour les affiches, j'ai arrêté, pas assez de murs chez moi. Thomas, les affiches
Les affiches, j'en ai pris une parce que je la trouvais pas mal. J'ai pas pu encore l'accrocher. C'est vrai qu'on s'est pas trop lâché au niveau produits dérivés goodies, puisque moi, ça fait 3 ans que j'y vais et c'est un peu la même chose qu'il y a à chaque fois. Donc,
c'est pas la même chose. Là, cette année, il y avait un peu moins de stands sur les produits dérivés. Moi, c'était une impression que j'avais, même si cette année, ils étaient rattachés au salon des éditeurs ainsi que les fanzines. Il y avait des trucs en moins, il n'y avait pas de boutique par exemple Tonkam, il y avait pas mal de boutiques qui étaient en moins, par exemple justement d'éditeurs DVD ou de goodies, il y avait des trucs un peu moins intéressants, pas sur les t-shirts, et j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait moins d'exposants sur les fanzines, hein. Les stands étaient plus petits et d'ailleurs selon certaines sources les emplacements étaient plus chers cette année.
Il faut dire aussi pour les produits dérivés qu'on a la chance à Toulouse d'avoir deux boutiques très spécialisées où on peut avoir tout à portée de main, qui sont, on va faire un peu de pub, Imaginaire et Kyodai, qui sont des magasins qui sont tenus par des équipes très sympas, et puis on a déjà pas mal d'objets qui gèrent à Toulouse, donc qu'on peut retrouver aussi Angoulême.
Voilà, une chose aussi à dire, c'est qu'Angoulême Angoulême est une ville où il n'y a pas de librairie bande dessinée. Enfin, s'il y en a une, il y a celle du CNBDI. Mais après, il n'y a rien d'autre. Je crois que s'il y a une librairie manga, mais qui n'est pas franchement très bien achalandée. Et donc, il y a tout le monde de la région qui y fonce, quoi, forcément.
Il ne faut pas le dire, ça, hein, très bien achalandé. Parce qu'en fait, quand c'est achalandé, ça veut dire qu'il y a des clients, quoi. Les clients, c'est les chalands, quoi.
Ah oui, c'est
pas le matos, hein, c'est pas le matos qui. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, d'accord. Voilà. Bon, qui est très bien fourni, d'accord, dans ce cas-là. Merci, maître Capello.
Non, il y en a marre, même à la télé, ils le disent, quoi. Il y en a marre, quoi. Arrêtez.
D'accord.
Allez, procès verbal.
Les stands étaient plus petits, donc et d'ailleurs Glénat, ils n'avaient pas un grand espace, c'était assez réduit. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que les travaux du Champ de Mars, la grande place où d'habitude sont les stands des éditeurs, qui étaient jusqu'en 2005, sont quasi finis. Ça fait 2 ans que la place est en travaux, donc ça fait 2 ans. L'an dernier, qu'il a fallu trouver une solution de secours. L'an dernier, c'était des bulles, c'est-à-dire des tentes en enfilade, et c'est vrai que c'était un peu bordélique. Je me souviens de la file d'attente devant Panini l'an dernier, c'était quelque chose de dantesque, ça sortait dehors.
Alors moi je te rassure de suite, cette année là, il y avait la même file d'attente, sauf que c'était à l'intérieur, hein.
Non, je crois que c'était pire l'an dernier.
Non, pas du tout, parce que l'année dernière,
il y avait des collusions avec les autres stands.
Si tu veux, ce qu'ils font à Panini, c'est que, on va y revenir tout à l'heure, de toute façon, c'est qu'ils organisent un système de queue pour attribuer des tickets pour avoir le droit de faire la file d'attente pour avoir les dédicaces. Et en fait, il y a autant d'inscrits que possible et ils tirent au sort avec des petits papiers. L'année dernière, ils l'avaient fait dehors et puis il y avait pas mal de fans. Cette année, ils se sont bousculés et ils ont failli renverser les tables des auteurs, car il y a eu un gros fight.
Thomas était envoyé spécial dans la foule, en plein milieu.
Oui, je voulais avoir ma dédicace. Oui.
C'était quoi le décompte selon les manifestants et la police?
Je sais pas, mais en tout cas, il y avait.
Il a eu sa dédicace.
Il y a eu quelques accrochages. Oui, j'ai eu de la chance.
Oui, tu peux le dire. Hein. C'est un badge professionnel, ça aide pas toujours.
Non, justement, puisque justement les fans qui se sont levés à 4h30 du matin se sont pris à ceux qui avaient des badges. Oh, vous êtes des privilégiés, vous êtes arrivés à 10h et puis vous avez vos entrées, c'est ça, ouais.
Enfin bon, c'était intenable. Bref, donc normalement l'édition 2008 aura lieu à nouveau à Place du Champ de Mars, complètement rénovée, dans de bien meilleures conditions que les deux éditions qui ont eu lieu. On a retrouvé avec beaucoup de plaisir des gens que l'on connaît. Par exemple, il y a Choco Quid qui avait dit qu'il ne ferait que 5 albums annuels. Et ben là, ils viennent de sortir le 6e album. Donc Choco Quid, c'est un collectif surtout issu des écoles des images d'Angoulême. Donc c'est un collectif angoumoisin qui fait de la bande dessinée pour enfants de très 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 bonne qualité, avec un look qui est assez underground, mais vraiment très bien léché. Et cette année, ils ont fait un truc en plus, ils ont fait un DVD.
Ah oui, alors le DVD, donc c'était pas prévu que j'en parle.
Non, c'était le temps que je prenne le siège.
D'accord, donc le DVD c'est une compilation de quelques courts-métrages qui peuvent aller de la 3D à un rendu peint, mais aussi avec un rendu un peu esquissé à la Mevozane Yamada, ou ça peut aller aussi à de la plat avec des grosses cernes noires. Et puis les tons sont assez différents aussi d'un film à l'autre. La qualité est quand même assez haute dans l'ensemble, même s'il y a quelques petits couacs dans cette compilation. Mais le niveau est franchement bon. Je sais pas combien il t'a coûté, Xavier.
15€.
15 euros,
15 euros, il y a une vingtaine de cours.
Franchement, si vous êtes fan d'animation, ça vaut le coup.
Ça vaut le coup parce que là, on sent vraiment l'émulation au sein du pôle de l'image, puisque il bosse dans un label indépendant qui s'appelle Café Creed, C-R-E-E-D. Si vous cherchez comme ça, on mettra le lien sur le site de la radio, mais comme ça, si vous cherchez, vous trouverez. Et normalement, ils vendent par correspondance le DVD ainsi que les bouquins. Il faut raconter en plus les frais de port. Mais là-dessus, on voit toute la puissance, je vais dire, de l'équipe des Charentes. Il y a le CNBDI, bien sûr. Il y a l'école de l'image. Il y a toutes les productions comme Marathon, Xilam, qui ont des délégations là-bas. Enfin, là-dessus, vraiment d'un très, 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 très bon niveau. C'est vraiment avec plaisir qu'on les a retrouvés. Il y a aussi Vanida qu'on a revu, qui nous a reconnus spontanément, qui est toujours aussi sympa, accessible et tout ça. Vanida qui vient de sortir L'immeuble d'en face, tome 2. Le tome 2 vient d'arriver, ça vient de sortir chez la boîte à bulles, on en parlera la semaine prochaine. Et L'immeuble d'en face a été, figurez-vous, élu cette année par les libraires professionnels aux États-Unis meilleur manga sorti aux USA. Elle a pas du tout pris les chevilles ou quoi que ce soit. Non, elle est restée très simple. Et là-dessus, c'est un vrai bonheur de voir qu'on a vu vraiment l'évolution d'un auteur et que finalement, elle reste calée. C'est vrai que c'est un gros avantage à bande dessinée. C'est qu'il reste vraiment sympa. Et oui, même s'ils sont stars, enfin, quelques exceptions près, mais même Lewis Fondam. Comment ça, je brode. Mais ma foi, il est 12h18, on a un flash spécial. And now, the news. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier. Bonjour du sport.
Drame de la pipolisation.
Que monstre pour se faire dédicacer l'adaptation BD de la série Samantha. Que monstre pour celle de Kaamelott. Et vide absolu par contre pour devant Chevalier et Las Palès. Bilan, une demi-dédicace pour eux.
Et la rédaction n'a pas su tirer au clair qui dessinait et qui scénarisait dans le duo. Drame de l'institutionnalisation.
Cette année, pas d'hôtesse déguisée en Avis, en Supergirl ou en Catwoman. Il se murmure que Julien Bastide, coordinateur manga au FIBD, a refusé l'organisation d'un cosplay. C'est bien dommage, l'année dernière, le service photo du supplément week-end, c'était bien...
Oui, pardon, excuse-moi. D'accord, ok, je le retire cette phrase. Oui, c'est moi qui ai écrit le texte. Et drame de l'héritage en bande dessinée.
Et oui, Corto Maltese va connaître une suite. Ça peut pas être pire qu'Astérix, remarque.
Et vraiment, on est salauds. Et enfin,
c'est vrai.
Et là, c'est moi qui vais faire le texto. Drame des bonnes manières.
C'est toi qui fais le texto. Oui, d'accord. Donc, Dominique Véré, fondateur de Tonkam et en charge des mangas chez Delcourt, nous a déclaré.
Allez, je ne te serre pas la main, elle est dans mon slip.
Alors, je me permets de dire que, hormis de son contexte, c'est pas du tout drôle, Xavier. Nous, on y était, on a beaucoup ri, mais là, je pense que les auditeurs, ils sont complètement largués. Mais c'est pas grave.
Oui, c'est les miracles de la radio. On peut pas faire grand-chose, des fois.
On comprendra qu'il faisait vraiment froid. Hein,
même pas, faisait très chaud. La soirée était bien arrosée. Alors, cette année... Il y a eu donc un palmarès, un prix officiel. À noter que moi, je suis pas exactement d'accord sur le fait qu'ils aient partagé en deux l'organisation. C'est-à-dire d'un côté les prix pour les grands et d'un autre côté les prix pour les petits. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Mais avant d'y venir, on doit parler d'une tradition, assez mortelle vis-à-vis du Festival d'Angoulême. C'est-à-dire à chaque fois, il y a un grand de la bande dessinée qui meurt juste avant, juste après l'organisation du festival. Il y a eu Will Eisner, il y a eu Franquin. À chaque fois, c'était dans la semaine ou dans la semaine juste après. Et là, cette année, ça a été juste après. Et figurez-vous que ça a été juste après avoir reçu justement un des essentiels, l'un des prix du palmarès officiel d'Angoulême. Cette année, donc, c'est Didier Lefebvre qui nous a quittés dans des circonstances tragiques. Didier Lefebvre n'était ni scénariste, ni dessinateur, mais il était photographe à Ouest-France. Le photographe, c'est l'histoire en trois volumes qui lui a valu un FOV, justement. L'un des cinq ouvrages essentiels cette année, qui d'ailleurs a été repris par Frédéric Lemercier au scénario, Emmanuel Guibert au dessin. D'ailleurs, sous sa documentation graphique et sous ce qu'il a raconté. Et ben, Didier Lefebvre était vraiment éclatant et flamboyant lors de la cérémonie. Il a dédié son prix à Médecins Sans Frontières, ce qui a déclenché une gigantesque ovation. Et donc c'est bien dommage, c'est un auteur de bande dessinée à sa manière. Et c'est vrai que Le Photographe est un album en 3 tomes qui est vraiment à découvrir, puisque il y parle de l'Afghanistan avant l'intervention américaine, l'Afghanistan des Moudjahidines, vu par les associations caricatives. Et c'était vraiment un album intéressant, c'est vraiment dommage. Nous, on va saluer Didier Lefebvre pour l'œuvre qu'il a laissée, pour le témoignage et vraiment pour une BD reportage qui a été maintes fois récompensée, aussi bien dans le festival d'Angoulême que par les prix parallèles, que par aussi tous les festivals de France et de Navarre. Et avant l'ouverture du festival d'Angoulême, cette année, il y a une initiative de la part de Lewis Trondheim, c'est-à-dire qu'avant Angoulême, à partir de mardi, il avait ouvert en fait les 24 heures de la bande dessinée. Le principe, c'est qu'on prend 24 dessinateurs qui ont chacun réalisé en 24 heures une histoire complète de 24 planches. Il y avait un peu de tout.
En 23 planches plus une couverture.
Et la quatrième de couvre aussi m'a semblé pour certains.
Et 22 et 2.
Ouais, en tout cas, c'est une très 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 belle performance, librement consultable. Le site, c'est 24heuresdelabandedessinée.com, 24h de la bande dessinée.com, et on parlera de 24 après, ou plus facilement sur bdaangoulême.com. Je sais pas si Thomas, tu en as consulté quelques-uns.
Ben, moi, j'ai vu celle de Boulet.
Boulet que l'on a en interview, et on en reparlera d'ailleurs. Prochainement, on a 2 interviews de Boulet.
Mais bon, pour le prix d'une, on vous gâte.
On vous gâte là-dessus. On n'est pas des chiens, loin de là. Non, non, on se fait plaisir, 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 plaisir.
Du meuble.
Ouais, à peu près. Avant d'arriver donc au palmarès officiel donc de ce 34e festival, le prix du meilleur album est allé à Mangaka. C'est une première lors du festival d'Angoulême que le meilleur album va à un manga. Il s'agit de Non Non Ba de Shigeru Mizuki, excusez-moi. Et donc, le dessinateur qui est assez âgé, hein, il a dans les 80 ans, n'était
86,
pas sur 86, voilà, ne s'est pas déplacé. Et donc, c'est le patron des éditions Cornelius qui est monté sur scène avec un portrait qui a délivré un message assez long mais assez rigolo. Et à côté de cela, dans le palmarès, donc je vous ai parlé du Photographe, de Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre et Frédéric Lemercier. Il y avait aussi donc parmi les essentiels Black Hole de Charles Burns, sur une jeunesse, je vais dire, qui est en train de se toulouiser. Lucide de Ludovic de Burn et Lupus de Frédéric Pet. Black Hole, l'intégrale est sortie chez Delcourt. Lucile de Ludovic de Burn vient de sortir chez Futuropolis. Lupus de Frédéric Peters est sorti chez Atrabir. Et Pourquoi j'ai tué Pierre de Olivier K et Alfred chez aux éditions Delcourt, sorti il y a un an à peu près. Et dans la catégorie révélation, ils ont mis Panier de singes de Jérôme Mulot et Florence Roper de l'association. L'association Lewis Trondheim a quitté l'association courant décembre, un peu en claquant la porte, mais néanmoins il n'a pas été chien, c'est-à-dire qu'il n'a pas pénalisé les auteurs pour ce qu'ils pensent de menu, puisqu'il a aussi un peu favorisé pour le prix du patrimoine, ça, je suppose. Hein. Le Sergent la Terreur de Truis et Friedman, le prix du patrimoine consiste en fait à récompenser le travail d'un éditeur de faire, republier un grand classique de la bande dessinée qui était quasi oublié. Après tout, pourquoi pas. Accessoirement, cette année, l'Académie des Grands Prix et le Festival, c'est-à-dire tous les anciens Grands Prix de la ville d'Angoulême, votent pour le nouveau Grand Prix de la ville d'Angoulême, celui qui sera président en fait à la 35e édition. Et cette année, avant d'annoncer le prix, ils ont annoncé un message de soutien à Charlie Hebdo, hebdomadaire satirique et actuellement assigné en justice par les associations musulmanes. D'ailleurs, l'audience a été ouverte mercredi dernier. L'Académie des Grands Prix et le Festival soutient Charlie Hebdo dans son combat pour la liberté d'expression et le droit à la provocation. Charlie Hebdo, en fait, est poursuivi actuellement pour avoir publié les fameux dessins autour de Mahomet, entre autres par le recteur de la mosquée de Paris et par d'autres associations musulmanes, pour avoir donc repris ces dessins et en plus en rajouter d'autres. sachant qu'au départ c'était sorti dans un journal danois qui était plutôt affilié quand même d'une droite assez conservatrice, et Charlie Hebdo a dit quand une religion est conne, on a le droit de la critiquer.
Ouais, et puis t'as loupé par contre l'interview d'un des dessinateurs danois justement qui ont fait ces fameux dessins qui ont été repris par Charlie, hein, et qui témoignait, je crois que c'est dans la dépêche de cette semaine. Et lui, il a quand même des problèmes maintenant au Danemark, parce que l'histoire s'est mondialisée, on va dire. Alors qu'au départ, c'était vraiment un truc qui devait ne concerner que le Danemark. Hein. Ils avaient ces caricatures dans cet état d'esprit-là pour un quotidien danois. Et il faut savoir qu'au Danemark, la donne n'est pas la même en ce qui concerne la population, arabe, maghrébine et musulmane, quoi, qui est vachement plus modéré, qui là, fait vachement
là, pas parler la religion d'elle musulmane,
par rapport à la France. Et là, en fait, c'est le fait que ça a été repris par des personnes et par des gens et par des groupuscules extérieurs au Danemark.
Oui. Et 6 mois après.
Est monté en épingle. Mais le problème aussi, c'est que les dessinateurs, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont toujours sous protection, parce que ils ont encore pas mal de problèmes. Et si on lui demande, et on lui a posé la question d'interview, et si c'était à refaire, ce dessin, est-ce que vous le referiez? Il a dit ouais, en essayant de l'améliorer un petit peu, quoi.
Il a raison.
tout à fait.
Thomas, 12h27. And now, the news. Bonjour Thomas.
Rebonjour Xavier.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Drame de la cérémonie.
Lors de la remise des prix du festival, la prestation de Thierry Belfroy, présentateur du JT de la RTBF, enfonce tous les précédents one-man show de Jean-Marc Thévenet, ex-directeur du festival et ex-monsieur loyal.
Ouais, et à ce sujet, on trouvait lourd et particulièrement pénible qu'au début de chaque cérémonie, il fasse un speech de 15 minutes, non pas à l'assistance, mais uniquement à monsieur le ministre, monsieur le maire d'Angoulême, monsieur le président de la communauté des communes d'Angoulême, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général. Plus de sous, s'il vous plaît, pour le festival, s'il vous plaît, plus de sous, plus de sous, plus de sous. Il y en avait marre. Drame sécuritaire.
Lors d'une soirée VIP, ZEP, précédent président, se retrouve tricard faute de retrouver son badge. Dommage, c'était à l'entrée de l'hôtel où il logeait.
Donc, il a fallu du temps avant qu'il puisse rentrer. Drame de la sonorisation.
Samedi midi, nous avons pu entendre l'annonce suivante.
Le petit Jean-David est attendu sur le stand du puits par son éditeur. Le petit Jean-David est attendu sur le stand du puits par son éditeur.
Eh oui, peine perdue, Morvan et Muñoz abandonnent Spirou.
Et d'ailleurs, un claquage de porte, on l'a vraiment vécu en direct, puisque Morvan s'est vraiment lâché devant trois personnes d'ActuABD. Et samedi matin, on était dans le hall de l'hôtel où ils étaient en train de discuter avec Dupuis là-dessus. Donc théoriquement, c'est les précédents auteurs
Tom
et Jean-Ri qui actuellement font le petit Spirou, qui vont reprendre Spirou, sachant qu'ils avaient claqué un peu à moitié la porte. Ils avaient dit non, on arrête Spirou puisque vous voulez pas d'un Spirou adulte. Donc c'est étonnant chez Dupuis cette manie d'entrouvrir la porte et de faire un album vraiment révolutionnaire pour ensuite dire aux auteurs non, c'est fini. Là-dessus, je ne comprends absolument pas. Enfin bon, ça, on aura plus d'informations par la suite. Drame de la restauration rapide.
Ayant rangé sur leur pause déjeuner pour une interview de Boulet, deux chroniqueurs cèdent au régime alimentaire de l'auteur. Bilan, deux kebabs.
Tu m'étonnes. Et enfin, drame du snobisme.
Lewis Trondheim a refusé d'avoir son expo au CNBDI, mais collabore à un livret hommage parodique chez Delcourt.
Et qui était distribué sur le festival. Il est là, oui, quelque part. C'est celui-là.
C'est ça, c'est le fascicule en papier cartonné, oui.
Voilà, avec donc les publications Lewis uniquement chez Delcourt, et ça en fait déjà pas mal. Oui. Et un sacré paquet d'ailleurs. Et dernière page, alors d'abord donne le titre parce qu'il est assez rigolo.
Donc ça s'appelle Lewis Trondheim, exposition rétrospective du 25 janvier au 31 août 2040, Fondation Delcourt.
Voilà, et de l'autre côté. Retrouver. Il y a marqué en tout petit, là, en italique, là, à côté de la couronne mortuaire. D'Argo a une plus grande place que celle de Delcourt. Ce catalogue est interdit à la vente. Si Lewis ou toute personne de bonne volonté voit ce livret mis à prix ou quoi que ce soit, il aura le droit de le déchirer en petits morceaux sous les yeux hagards et paniqués du vil marchand. On reconnaît quand même l'humour du président. C'était quand même assez amené. Alors, vous allez me dire qui
Mais qui?
Qui?
Non,
qui
c'est une, c'est un prétexte pour mettre ton morceau à...
Non, non, d'ailleurs, c'est même pas le bon, d'ailleurs, j'ai l'impression.
Ah bon? C'est... D'accord.
Ouais, j'ai dû me planter, là. Grand chant traditionnel, oui, effectivement.
Qui me sent les Snorkies? Bon, alors, PV.
Oui, je me suis complètement planté, donc c'était celui-là que je voulais passer. C'est qui est donc le 34e prix de la ville et qui aura la joie et le bonheur d'assumer la présidence du prochain festival qui, normalement, devrait revenir dans de bien meilleures conditions?
Tu veux que j'annonce? Comment on fait?
Ah ben, tu déchires la petite enveloppe et annonce-le, oui.
Le gagnant cette année du Grand Prix de la ville d'Angoulême et
eh ben c'est José Muñoz.
Bravo.
Je m'applaudis. José Muñoz fait partie donc d'une génération d'auteurs qui a éclos en Amérique du Sud. Il y en a énormément. Il a surtout travaillé. Il est né à Buenos Aires en 1942. Il a eu comme professeur Alberto Breccia et Hugo Pratt, s'il vous plaît, à la Escuela Panamérica de Arte de Buenos Aires. Il a aussi pas mal travaillé avec Carlos Sampaio, qu'il a rencontré en Angleterre, qui était un exilé du régime militaire qui avait lieu à ce moment-là en Argentine, ainsi qu'avec Oscar Ozarat. Il a travaillé pour donc le mensuel italien Linus, puis fut publié en France dans Charlie Hebdo. Actuellement, il y a une très bonne exposition d'ailleurs, mais c'est dans le nord de la France, autour de José Muñoz. Et José Muñoz s'est surtout fait connaître pour le bar à Joey chez Casterman, mais surtout la série Alak Sinner, dessinée par Sampaio, qui était un polar noir énorme.
Terrible. Et ça paraissait dans Charlie mensuel, quoi.
Ouais, et ça.
Et donc,
il fallait
attendre chaque mois, t'étais là, oh, putain, qu'est-ce qu'il va, et là, et puis là, mais c'était,
Et surtout, qui a préfiguré Sin City et tous les polars extrêmement noirs et ancrés de l'époque là-dessus. Il a aussi pas mal inspiré, d'ailleurs, selon nos collègues de Actua BD, Frank Miller, ça je viens de le dire, mais aussi Jérôme Charin. Jérôme Charin et Daniel Piculi, c'est avec lui qu'il a scénarisé. Et il a aussi pas mal inspiré Lorenzo Mattotti, Dave McQueen, Edmond Baudouin et Frédéric Bézéan. Enfin, ça c'est une estimation.
Est-ce que l'insert téléphonique marche aujourd'hui?
Aïe, je m'inquiète.
Ah, ça marche.
Allô?
Salut
Xavier. Salut.
C'est Docteur Strange.
Eh oui, j'ai reconnu, je t'attendais moi.
Oui, ah oui, je suis désolé, j'ai oublié, je viens de le réaliser aujourd'hui. Et dis, c'est pas Charlie Hebdo
C'est Charlie mensuel, c'est oui, Charlie je me suis planté.
Voilà.
C'est pas exactement la même chose, merci. Toi, tu peux essayer de me dépatouiller, toi tu en as aussi du José Muñoz.
Oui, j'ai même un dessin de lui, pas mal, il était passé il y a quelques temps, je crois, à Colomiers, je suis pas certain, et il m'avait fait un super Alak Sinner.
Oui, ouais, puisqu'il il vit en France et je sais qu'il fait pas mal de tournées de dédicaces. C'est vrai qu'il m'a semblé qu'il était venu en Colomiers. Il y a...
Ses dédicaces sont belles, tu sais, c'est juste des traits. Enfin, bon, il excelle dans le noir et blanc, hein, c'est évident. Mais elles sont très sobres et classe, quoi, classe, ouais.
De ce côté-là, un gros travail. Je sais pas qui pourrait me faire un résumé ici entre du sport et Doctor Strange de Alak Sinner.
Non, je peux pas.
Oula.
Il y a trop d'albums, mais Alak Sinner, le bar à Joe, c'est un peu le même truc, mais il a fait des albums aussi qui ne sont pas des séries. Je me rappelle plus.
Ouais, il y avait des histoires courtes aussi, quoi, des histoires de quelques planches en fait, quoi.
Oui, oui, oui.
Également paru dans le Charlie mensuel, quoi, à l'époque, quoi.
Bon, bah, Docteur Strange, merci beaucoup.
Oui, je t'en prie.
Et comme t'es pas venu, bah, t'es puni, tu viendras la semaine prochaine.
Hein. Oui, oui, tu me gardes la couronne des rois.
Un peu tard.
Bon, on va seulement te dire quel est le thème de la semaine prochaine, c'est Valérian et Laureline, normalement.
Excellent.
Voilà, donc il n'y aura pas que ça, il y aura la SF et tout le reste, mais il y aura aussi de la télé, du cinéma et tout team. Merci
D'accord.
beaucoup.
À bientôt.
Ciao. Nous, on est revenus pas les mains vides. On est allé avec un gros nagra, les micros, les lights, les photos et tout le reste. Et on a interviewé plein de gens. Et
oui.
De chante, puisque on a eu en interview Keiko Ichiguchi, ça on le diffusera premier week-end d'avril, puisqu'elle a sorti un manga qui s'appelle America, et un bouquin qui est assez rigolo à lire, qui s'appelle Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés. On laissera la surprise de quoi il s'agit. Donc la diffusion est prévue le 7 avril prochain. Bruno Bellamy pour sa nouvelle série Showergate. Ça, on devrait diffuser assez rapidement. Gabriele Del Toro. Thomas,
qui c'est? Oui, c'est un très... un excellent dieu de l'illustration et qui travaille surtout pour les éditions Marvel et qui fait si vous avez des artbooks chez vous de d'illustrations Marvel récentes, c'est surtout celui qui fait des peintures physiquement, c'est-à-dire qui fait encore à l'ancienne et c'est vraiment de toute beauté.
On a interviewé Boulet, il y a deux interviews de lui, une avec Lucie Albon au sujet du vœu de Marc et du vœu de Simon. Le vœu de Simon devrait sortir normalement courant mars, donc c'est à ce moment-là qu'on diffusera l'interview. Et avec la Lune Rousse, Luna, qui tient un blog bande dessinée, c'est justement sur les blogs BD puisque celui de Boulet est assez connu. Là-dessus, on devrait faire une émission spéciale. Walt, c'est le fils de Goss, qui a repris l'héritage de son père pour le Scramoustache. La belle Madeleine de Proust. Scramoustache, ça remonte, hein. Dominique pour Secret Bancaire. Nico Henrichon.
Tu peux dire Henrichon, il est québécois.
Henrichon, hein. Oui. Ouais, il est québécois, mais il bosse aussi pour Marvel.
Oui, il fait aussi des couvertures pour Marvel et il a un projet pour un certain éditeur qu'on n'a pas le droit de mentionner pour l'instant, et il a fait surtout une excellente BD qui s'appelle Pride of Baghdad, qui raconte l'évasion d'un quatuor de lions pendant les frappes américaines à Bagdad, qui est assez excellente.
Bah, il faut pas se fier par contre à la quatrième de couvre qui est un petit peu racoleuse. Atsushi Kaneko, qui est un réalisateur japonais et qui est aussi dessinateur et qui a fait Bambi.
Voilà, qu'on a chroniqué à cette antenne.
Voilà, deux fois. Richard Malka et Rhys, qui ont fait l'adaptation, qui ont pris l'enquête de Philippe Cohen. Et donc, c'est la fameuse face cachée de Nicolas Sarkozy. Ça, on devrait essayer de le placer courant février pour éviter de rentrer dans les temps de parole des candidats.
Ouais, Malka, qui est d'ailleurs l'avocat hein, de
Charlie Hebdo.
De Charlie Hebdo, ouais.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, au bout d'un moment, pendant l'interview, il a dit « Ah ouais, je t'ai défendu !» Ah ouais. Et puis, il est aussi avocat d'une petite PME luxembourgeoise, Clearstream, si je me souviens bien. Richard Malka est un scénariste de bande dessinée. Il écrit pas mal de scénarios. Et à côté, c'est un avocat qui est très connu sur la place de Paris. Denis Bajram pour Universal War One, dont la série a été terminée. Mais est-ce que c'est une série ou est-ce que c'est qu'un cycle? Ça, vous le saurez pendant l'interview. Erwan Le Saec pour Mafia Story. Là aussi, on fera un gros sujet mafia à la télé, mafia au cinéma et tout le reste. Ça vaudra vraiment le coup. Et enfin, Stéphane Dupré, qui est dessinateur, et le scénariste Alexandre Astier. Astier qui est le roi Arthur dans Kaamelott.
Exactement.
Voilà. L'interview devrait sortir assez vite sur Actua BD et donc on diffusera.
J'attends. C'est pas moi qui m'en occupe en plus. Non.
Ouais, d'ailleurs j'ai oublié de l'envoyer. Voilà, je ne sais pas si on a d'autres choses à dire sur Angoulême ou si on attend peut-être la prochaine émission.
Si on a quelque chose à dire, Angoulême, c'était bien sympa. On a fait beaucoup de rencontres intéressantes puisque. Ce qu'il y a de, on le répétera jamais assez, mais les auteurs de bandes dessinées, que ce soit scénaristes ou dessinateurs, se prennent pas la tête. C'est des gens très abordables et vraiment, ça vaut le détour de discuter un peu avec eux. Ils te montrent s'ils se sentent en confiance un peu leurs planches qu'ils ont amenées en exclusivité. C'est très très intéressant et très bien sympa.
Et on remerciera jamais assez les Angoumoisins pour leur accueil, puisqu'ils ont vraiment été très sympas là-dessus. On y retourne chaque année avec plaisir et d'ailleurs, on fait des razzias aussi. À l'aéroport pour l'alcool détaxé, puisque là-bas ils font du cognac.
Ah bon, tu y vas en prenant l'avion toi?
Non, je déconne. Le retour a été un peu lourd d'ailleurs, il y avait du brouillard. Juste une dernière chose, 9e mars, c'est la revue du CNBDI, c'était des grands formats jusque-là. Là, ils sont passés à un format un peu plus petit et plus ramassé. C'est coédité donc par les éditions de l'an 2 et le CNBDI, qui est un musée, une bibliothèque nationale, hein, officiellement. C'est la bibliothèque nationale de la bande dessinée, c'est un peu la filiale de la BN. Et donc, le 13e numéro vient de sortir, il vaut 20€, c'est vrai, mais ça vaut son pesant d'études, qui est quand même assez intéressant et plutôt bien foutu. Au menu, un très gros dossier sur Lewis Trondheim, présidence oblige, bien évidemment. Philippe Drouillet qui va reprendre Delirious. Là, j'en connais un.
Lawrence Sloane.
Ouais, mais ça, rien que le fait qu'il, que j'annonce ça, là, je sais que ben justement, Strange, là...
Ah, il est la... pas mort, Drouillet.
t'as vu les points qu'il a, t'as vu les bagues qu'il a, côté bon hein, moi je me fous pas en face hein, et puis en plus c'est un très bon copain. Une interview avec René Pétillon, auteur de l'enquête Corse et de l'affaire du voile, mais aussi de toutes les BD qu'il a fait auparavant comme Meurtre, Apostrophe et d'autres choses. L'école du New Yorker, une école New Yorker, c'est cette revue hebdomadaire très in politique et artistique, et notamment et ben cette année était invité Richard McGuire qui faisait une exposition absolument étonnante au CNBDI sur le graphisme. Enfin lui c'est plutôt de la maquette hein, qu'il fait, mais en tout cas ça reste bluffant.
Il faut que je te passe les dédicaces que tu m'as filées puisque je les ai scannées, et peut-être que vous pourrez, amis auditeurs, site, ouais, retrouver nos dédicaces spéciales. Il y en a
les dédicaces qu'on a eues, on n'en fait pas.
Donc. Une petite dizaine. Oui, bon, on peut vous dédicacer aussi. Hein. On peut vous dédicacer des icônes de fichiers MP3.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et un essai sur la BD et la philosophie avec une étonnante étude des œuvres de Juan Sfar, et enfin un dossier sur la Manhua, la bande dessinée chinoise, avec une interview de Patrick Abri.
La Manhua, hein, parce la que Manhua. La Manhua c'est coréen, la Manhua c'est chinois, ouais, avec un U.
Et regarde l'affiche qu'il y a là, c'est le dernier Metalian. Le Metalian, donc, avec désormais un DVD, 2 heures de documents exclusifs et tout ça. Et regarde la dernière ligne de la couverture. Et ben, figurez-vous qu'il y a une collaboration avec Chiaopan autour de Mélodie d'Enfer.
Oui, le truc voilà, sur les guitaristes. Voilà, donc c'est. Enfin, sur le groupe.
Donc voilà, si vous êtes un gros métalleux, genre Bruce, le graisseux.
Ou Michael, spécial dédicace.
Voilà. Et ben, oui, c'est vrai aussi. Et ben, dans le dernier Metalian, vous aurez donc une petite introduction autour de la bande dessinée chinoise. On va entamer les sorties bande dessinée. Voilà, quand même quelques-unes. On va commencer avec Mertonville, le troisième tome vient de sortir, c'est la fin de la série, 1951, c'est le nom du troisième tome, c'est Michel Falardeau, un Québécois qui est vraiment talentueux, qui donc le sort aux éditions Paquet. Alors Mertonville, c'est une petite ville du Canada francophone. Ouais, j'ai cherché longtemps d'ailleurs cette ville. Hein. Quoi que je fasse, Google Maps refuse de montrer où c'est. Et d'ailleurs, selon le syndicat d'initiative, si on veut y aller pour manger un morceau, pour visiter, il faut montrer à l'entrée de la ville un passeport et un visa en bonne et due forme. Alors, pour ce que j'en lis, Mertonville semble être une ville universitaire un peu comme les autres. Lydia est une lycéenne qui vient justement de s'installer à Mertonville, s'étant inscrite à l'université. Une enfance passée avec un père célibataire, pas très bavard, dans une petite cabane au fond du Québec. Et maintenant, à elle, les joies de l'émancipation, de la vie en cité U, d'un emploi du temps à la fois léger et très contraignant. Et pour ne pas décevoir son père, en plus du cursus artistique qu'elle rêvait de faire, elle s'est aussi inscrite en fac de justice. Hein, j'ai pas confondu droit et justice, j'ai bien dit justice. Car sur cette méprise, la jeune étudiante va vite s'apercevoir qu'elle y prépare une carrière de justicier diplômé. Lydia découvre alors qu'elle a des capacités peu communes, comme celle de sauter de toit en toit. Mais d'où lui vient ses pouvoirs? Dans les deux précédents tomes, on la suivait dans les UV d'arts martiaux, les TP de filature, passer un TD d'identité secrète et d'uniforme de terrain. Et après le tome 2 et son final tragique, Michel Falardeau balade ses lecteurs et nous fait découvrir que le père n'est pas le personnage si insipide qu'on aurait pu croire. Le final est un peu devinable, mais l'univers créé est si plaisant qu'on souhaite une suite avec vraiment beaucoup d'impatience, parce que les idées sont fraîches, le dessin est très spontané, quoique plus grossier que le premier tome, et la colorisation est aussi moins habile d'ailleurs que dans le premier tome. Et ce troisième tome clôt une série qui a développé un univers et un ton très original. Par pitié, une suite. Mertonville, le troisième tome, c'est la fin, 1951, Michel Falardeau, voilà, c'est aux éditions Paquet, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros coup de cœur. Nicolas Taquian et Albin et Alain Brion. Nicolas Taquian fait le scénario en collaboration avec le dessinateur Alain Brion. Corpus Hermeticum, le premier tome, premier album s'appelle Opération Gremica. C'est dans la nouvelle collection Terre Secrète chez Soleil. Et donc, parti en expédition archéologique dans le Grand Nord, on suit le pop Prokofiev et l'anthropologue Katerina qui vont faire une étrange découverte. Semblant abandonné sur la banquise, le sous-marin nucléaire K-160, porté disparu depuis 2 ans, voyez comme ça, là, un sous-marin nucléaire d'attaque, chargé de missiles et tout le reste. Les Inuits disent que cet engin militaire est une malédiction, depuis qu'il est arrivé, des hommes transparents rôderaient, semant la terreur. En 2003, les restes des forces armées soviétiques sont en lambeaux. La glorieuse marine russe est en état de décrépitude avancée. Alors quand un sous-marin soviétique nucléaire porté manquant réapparaît, et qu'au même moment d'anciennes bases disparaissent, silence radio, le FSB, ex-KGB, est légèrement sur les dents. Prokofiev et Katerina se font donc réquisitionner pour retourner sur place. Ce qu'ils y trouvent défie toute explication rationnelle. De la mythique cité de Tulé à la légendaire civilisation des Hyperboréens. Vers quel mythe va fuir l'enquête ? À moins qu'elle ne s'explique plus simplement. Nicolas Taquian va scénariser 6 histoires complètes dans cette collection autour de mythes célèbres. C'est pas franchement novateur, c'est même, on va dire, légèrement...
X-Files
à fond, ouais.
Voilà, disons qu'il semble s'intéresser à des sujets finalement assez peu exploités, même si ça ressemble franchement à certaines scènes de X-Files. Ce qui donne cet étonnant mélange entre l'archéologie militaire et la nuit des morts vivants on ice. Après, on apprécie ou non le graphisme sur ordinateur. L'horreur et le blizzard sont accentués par ce trait épais et flou. Alain Brion s'y monte pas trop manche et s'est donné corps à de très jolies femmes. C'est ce qui s'appelle un bon argument de vente.
Oui, alors quand tu dis le graphisme sur ordinateur, c'est pas du tout comme les technoptères, hein. C'est pas du tout léché avec des dégradés de partout. Là, c'est vraiment, t'as de la matière quand même. Hein. C'est quand même dans le bon sens qu'on dit ça.
Enfin, moi, après avoir relu... Je me suis dit non, finalement il est allé, il aurait pu mettre plus de détails et tout ça. C'est un choix artistique. On a l'impression, on n'apprécie pas. C'est un peu la simplicité du scénario.
Moi j'ai pas lu encore, mais c'est vrai que en fait comme ça, j'applaudis des deux mains quand il y a pas de cerne autour. Oui, parce que franchement ça gave un peu quoi.
Parce que d'une seule tu fais pas beaucoup de bruit quand t'applaudis. Nicolas Taquian et Alain Brion, Corpus Hermeticum. Le premier album donc de cette série de one shoot s'appelle Opération Gremica et c'est dans la collection Terre Secrète chez Soleil. On change littéralement d'ambiance. On reste dans... Je veux dire... Non, cette fois-ci, on est carrément dans la science-fiction. Avec Biotope, c'est une nouvelle série qui vient de sortir dans la collection Poisson Pilote chez Dargo. Apollo au scénario et Bruno au dessin. 3 flics qui débarquent dans une base scientifique. Seule présence humaine sur Biotope. Biotope est une planète totalement vierge, en plein climax, et couverte d'une végétation luxuriante, en phase d'observation et d'études pour un futur probablement voué à l'exploitation effrénée des ressources naturelles. 3 flics dans un monde de scientifiques, d'ingénieurs et autres techniciens spécialisés qui ont 1 mois pour résoudre une affaire, ou qui devront attendre 6 mois de plus pour un retour vers la Terre, la civilisation et l'atmosphère sururbaine qu'on devine correspondent beaucoup mieux à leur mode de vie. 3 flics. Eunice, beauté d'ébène, au sang-froid impeccable et au regard scrutateur. Langevin, un autre enquêteur aux propos cyniques et aux flairs sans faille. Et le commissaire Toussaint, qui va tenter de tirer les choses au clair, et son équipe soudée. Car même s'ils semblent se tenir, leur discussion prend vite un ton acide entre ces 3, et le commissaire Toussaint espère bien que cela n'influera pas sur leur travail. Un travail mathématique, d'observation, de raisonnement et d'analyse, où l'équipe policière va utiliser les méthodes comparables aux scientifiques qu'ils suspectent. L'affaire pourrait sembler simple. Puisatier et Zadig sont deux homos. Un des pieds amoureux tourne mal. Puisatier tue Zadig, son concubin, puis se suicide le lendemain. Mais dans cette enquête de routine, les rancœurs entre les différentes équipes, les rumeurs et les soupçons laissent entrevoir que tout n'est pas aussi schématique. Toussaint, Eunice et Langevin viennent d'arriver par navette, mais ne se doutent pas encore dans quelle barge ils viennent d'embarquer. Oui, barge, parce que galère, je savais pas trop comment le mettre. Je rame. Ambiance design rétro-futuriste années 60-70 avec son monde technique en niveau de gris, blanc, noir. Le lieu de détente club disco, dont les uniques fréquentations ne sont pas franchement amicales ou fréquentables. Et le monde extérieur d'un vert intense, sujet à la fois des observations, des ambiances, mais surtout de l'enfermement. Les sorties de là-bas se font compte-gouttes, les protagonistes restent dans leurs coquilles de plastique, effrayés de souiller de leur blanc chirurgical et stérile une planète aux richesses immaculées. Apollo avait été distingué par mes pairs comme scénariste de La Grippe coloniale, chez Vent d'Ouest, prix de la critique en 2004. Bruno s'était fait remarquer avec Nemo, reprenant le personnage de Jules Verne, chez Très étrange, depuis repris par Milan. Les aventures de Michel Swing, parodiant celles de Michel Vaillant, toujours chez Très étrange Milan. Et Inner City Blues, avec les codes de la Blaxploitation, chez Vent d'Ouest. Le mélange est étonnant, unique, et laisse un grand mystère, celui de la collection où se retrouve cette série. Poisson Pilote est effectivement censé être une collection d'humour, sauf que Biotope est un vrai polar avec les codes du genre et celles de la science-fiction. Biotope, le premier tome de cette nouvelle série, vient de sortir dans la collection Poisson Pilote chez Dargaud et scénarisé par Apollo et dessiné par Bruno.
Eh bien, moi je vais finir avec un manga. Comme en fait la dernière fois que
il
je suis
il a dit un.
Ouais, ouais. Bah ouais, bon, une, un, c'est pas grave, de toute façon il y a prescription maintenant. La dernière fois que je suis venu chez toi, j'ai vu ça en haut de la pile des BD à chroniquer. Je me suis dit, tiens, tu veux que je te la chronique celle-là? En fait, il y avait une fille en bikini m'étonnes. Sur la couverture. Donc ça s'appelle.
Ça a été reçu comment par la voix qui fait le moto dans notre nouveau générique?
Elle a dit, il est récupérable, j'ai l'habitude.
D'accord.
Donc il s'agit de GCU, c'est le volume 4 chez Doki Doki. GCU, ça veut dire Good Choice Umetaro. Et Umetaro, c'est le nom du mangaka qui s'appelle Saitani Umetaro. Et pourquoi il y a Umetaro dans le titre? C'est parce qu'il se met lui-même en scène au détour de petites histoires, puisque c'est un recueil de petites histoires en fait. Ça raconte les aventures de nanas qui savent pas ce qu'elles veulent ou de gamins, enfin des d'ados prépubères qui sont tellement maladroits avec les filles, ils ont besoin de l'aide extérieure, un peu comme Video Girl High en fait.
Ah, d'accord, tu es en plein syndrome Spice Girl, c'est ça?
Oui. Stop.
Il n'y arrivera pas. Bon, ben je sais qui c'est que je vais appeler. Hein. Je vais appeler le roi Arthur. Hein.
Bon, bah, je suis désolé, mais on me le demande. Mais maintenant, barrez-vous.
Alors, c'est assez rigolo comme recueil. Enfin, ça ne se casse pas les briques non plus. Hein. Voilà, c'est à un moment donné, dans une histoire, il y a une fille, il y a un ado qui la recueille. Elle est amnésique. Et puis à la fin, elle se rend compte qu'elle était amoureuse de Roberto De Niro qui vient la chercher en hélicoptère. C'est complètement farfelu. T'as l'histoire avec le mangaka qui se met lui-même en scène. Là, il met une ceinture de chasteté à sa nana qui fait au moins du 115 au niveau bonnet de soutien-gorge. Bon voilà, c'est que les trucs comme ça. Il y a aussi dans une tradition de un village de pêcheurs japonais où c'est un clan de guerriers avec un masque et puis des milliers de concombres qui doivent recevoir des prétendants qui doivent faire exaucer leurs vœux. S'ils arrivent à battre dans un combat singulier ces guerriers, ils obtiennent leurs vœux. Sauf que le mec qui va affronter le chef des guerriers, c'est son futur gendre qui va annoncer à son futur beau-père qu'il veut demander la main de sa fille et qu'elle est enceinte aussi. Voilà, je vous laisse augurer des moult combats rigolos. Pensez que voilà, c'est sympa, ça se laisse lire dans le métro. voilà.
je regarde des filles.
j'ai pas trop saisi le titre puisque à la fin, des fois, il y a des filles. Good choice. Alors ça veut dire que les ados sont réussi à se décider dans leur choix cornélien. J'en sais rien du tout. C'est volume 4, c'est rigolo, c'est interdit au moins de 15 ans. Bon, faut pas pousser non plus. Il y a des filles, on voit des culottes, mais bon. Ah si, non, il y a quand même quelques scènes de baise, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah tiens, tu n'étais pas très prompt pour sortir l'alerte Q.
Non.
Donc c'est chez Doki, par Saitan ni Umetaro, s'appelle GCU Good Choice Umetaro.
Je ne tenais pas à le chroniquer celui-là, je sais pas pourquoi.
T'avais chroniqué les précédents peut-être.
Oui. Je m'attendais à pire comme débordement, il est 12h57. Du sport, je ne sais pas ce que tu as au programme. Tu ne l'as pas communiqué.
Un peu tout, hein, comme d'habitude.
Oh punaise.
Oh non, tous ces
bon,
papiers.
On peut faire court. Hein. Mais je peux faire court, hein, de toute façon. Quoi.
Oui, parce que là, je sais pas, je suppose que tu as pas mal de choses à.
C'est beaucoup de brèves, en fait, quoi, tu vois.
D'accord.
Ouais, mais toi, tu voulais parler de Doctor Who.
Ouais, mais après, parce que là, sinon, la musique va être interrompue par
La pub.
Non, même pas par la pub, par le top horaire, ce serait dommage. Donc, je vais foutre une belle intro pour du sport, quand même. On va pas être chien. Quand tu veux, le lecteur CD, hein. Je suis pas le seul à bosser, là.
Allez, un peu de télé à présent. Alors, je t'en ai parlé hier au téléphone. Là, c'était hier soir sur France 2. Hein, c'est Un Flic, donc nouvelle série, première mouture donc de cette nouvelle série dont le producteur est quand même Serge Moati. Ça passe sur France 2 dans la case horaire dévolue le vendredi soir aux séries policières de justice et tout ça. Hein, PJ, Avocat Associé, Central Nuit, enfin. J'en passe, il y en a d'autres. Et là, eh bien, c'est scénarisé par Hugues Pagan. Donc, Hugues Pagan qui nous avait déjà fait une excellente série à la télé qui s'appelait Police District, qui s'appelle toujours Police District, hein, avec Olivier Marchal.
Ah oui.
La série avec Olivier Marchal. Donc, Hugues Pagan donc est maître d'œuvre hein, sur cette série avec Serge Moati. Le réalisateur, c'est Frédéric Tellier. Alors, c'est du tout neuf, hein, c'est du 2006. Donc, et le format. Est un petit peu différent, c'est-à-dire que là, ben, on sent un petit peu l'envie de la chaîne coproductrice France 2, eh bien, de marcher un petit peu sur les plates-bandes du polar du jeudi soir, en l'occurrence les téléfilms Une femme d'honneur. Les commissaires Moulin, les Navarro et tout ça.
Je suis pas d'accord.
Attends. Pour ce qui est de la forme, je parle pas du fond.
On n'a pas encore lancé le débat. D'accord.
Je parlais de la forme pour l'instant. Ok. C'est pour ça que à la place d'avoir le format 52 minutes qui est dévolu aux autres séries dont je viens de parler, c'est-à-dire PJ, Avocat et Associé et tout, qui se retrouvent également dans cette même grille le même soir, le vendredi soir sur France 2, là on a décidé de faire un petit peu mieux, on a décidé de faire du téléfilm carrément, hein, c'est-à-dire la durée grosso modo 1h30, 1h40, celui-là faisait 1h40 avec donc un personnage principal, le commissaire Schneider. Alors c'est assez marrant parce que je crois que depuis du début jusqu'à la fin, on prononce pas son prénom. D'ailleurs, les autres l'appellent Schneider également ou commissaire.
Il y en a qu'une qui l'appelle Schneider.
Ouais, mais enfin bon, les autres.
Les autres l'appellent par son code, autorité.
Ouais, autorité ou commissaire Schneider, quoi. Enfin bon, bref, quoi. Et joué, c'est là que c'est intéressant, par Gaëtan Konzot, pile à 13h. Tu vois, Gaëtan, t'as de la chance quand même, qui a été choisi pour donc ce rôle principal, un flic de cette. Gaëtan Kozo qui vient pas vraiment de la télé, qui vient plutôt du théâtre classique, comédie française, manga, s'il te plaît.
Un parcours
à la file, torton.
Ouais, mais c'est à lui que je pensais. Okay. Il y en a marre des mecs qui déclament. Attends. Oh là là, bah oui.
Non, justement pas quoi. Et c'est peut-être là que le bas blesse d'ailleurs. Hein, je pense quoi, parce que bon, c'est l'impression que ça m'a laissé sur ce premier épisode. Le personnage joué. Et bien entendu, se veut taciturne, se veut rongé par quelques hypothétiques démons intérieurs, on ne sait pas trop lesquels, juste l'apparition de son ex, histoire de...
assez sulfureuse l'ex, hein,
ouais, non mais bon, pas mal quoi, enfin bon, assez sulfureuse, bon, sympa sans plus quoi, mais enfin bon, c'est...
la merde, hein.
Ouais. Alex, joué par Marie-Gaëlle Kals, j'ai trouvé que l'interprétation était quand même un petit peu... trop un petit peu en dedans quoi. Et bon ben ça fait perdre pas mal de, d'épaisseur, pas mal de d'aspérité au personnage. Ça c'est un petit peu dommageable quoi de toute façon. Dans l'ensemble c'est pas trop bien joué quoi, franchement quoi, j'ai été un petit peu déçu. En particulier par les deux rôles principaux, l'adjoint du commissaire, là, François Caron, on l'a déjà vu, mais dans des rôles de bad guy, hein, et bon, il révèle que c'est quand même un acteur assez intéressant à suivre. L'histoire, par contre, au départ, vachement convenue et vachement too much, tu vois, quoi. Mmh. À fond les manettes, hein, bon, mais quand même, bah, on passe quand même 1h40 assez agréable, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. Ça n'est pas trop gêné, justement, par le jeu, les répliques un petit peu convenues.
Le cadrage et les photos quand même sont d'un très très haut niveau.
Il y a là-dessus... au niveau de l'image, il y a vraiment. T'as vu l'intro en, en ralenti et tout. Enfin bon, vraiment on atteint des niveaux qu'on a rarement atteint qu'au niveau de l'image quoi.
En France, en française,
c'est mieux que RIS.
Ah ça a rien
ça
à voir.
Rien à voir quoi.
Ça a rien à voir.
Donc RIS, j'ai essayé, c'est qu'est-ce que c'est nul.
Y a une espèce de recherche, tu vois, du pigment de l'image, du ton, enfin bon, qui est vachement intéressante quoi.
Le générique, franchement, je crois que c'est opéré par la manière dont il est monté.
Le générique, hein, le gyrophare, le reflet du gyrophare sur le capot de la bagnole qui roule en pleine nuit. Enfin, c'est pas mal, c'est vachement bien foutu quoi. C'est vraiment là, Frédéric Terrier fait du très 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 bon boulot quoi. Pour ça, vraiment, ça vaut le coup de regarder. Le scénario aussi, bon, malgré les situations bien convenues, hein, il faut le dire, hein, il y a des trucs énormes quand même. Faire évader un caïd de tôle, enfin bon, la grosse mafia, l'avocat véreux. Il y a vraiment pas mal de pensifs qui passent, mais ça passe quand même vachement bien. Hein, et tu te retrouves au bout du compte avec 1h40, quoi, tranquille, sans problème. Bon, c'est à revoir, vraiment c'est à revoir et c'est amélioré. Il y a quelques petits trucs à améliorer comme ça. Et ça en fera certainement un des fleurons du genre, à mon avis.
Non, mais
de toute façon,
là-dessus, ils ont une
ça
très...
a rien à voir non plus.
Ils ont une très très bonne équipe technique et il y a vraiment. Suivi hein,
ouais,
là-dessus.
Ouais. Alors le prochain on sait pas quand hein, parce que ce sont des téléfilms quand même donc ça coûte quand même pas mal de pognon et pas mal d'argent à produire. Par contre vendredi prochain sur France 2, là également bah France 2 qui nous gave de nouveautés, ça c'est assez intéressant. C'est très fréquent, c'est assez courant aux États-Unis entre les différentes séries, c'est ce qu'on appelle de faire un crossover. Et là ben vendredi prochain on nous propose le crossover PJ et avocat et associé.
Pas mal.
Donc on va voir ce que ça donne. C'est vendredi prochain à partir de 20h50. Dans un autre registre, il y a.
Mais merde, on fait une soirée poker chez moi.
Ouais. Mais j'avais préparé un truc sur le poker, mais on n'aura pas le temps, quoi. Je pense quoi. Un changement de chaîne. Il y a Planet Shock qui arrête de s'appeler à partir de mardi prochain. Planet Shock, ça s'appelle Planet No Limit et avec une
plus bas dans le nom de la chaîne.
Et avec un changement de ligne éditoriale avec l'apparition de soirées thématiques. Alors lundi ce sera plus ou moins popcorn, culture urbaine, le mardi hors du commun, les héros du quotidien, jeudi haute tension consacrée aux enquêtes policières et autres documentaires. Alors par exemple, ça commence donc mardi prochain avec en plus la diffusion de documentaire haut de gamme, et là ça commence très fort mardi prochain avec à 20h45 la diffusion de Bowling for Columbine de Michael Moore. Bon, tu vois, ça relève le niveau quand même, quoi.
Ouais.
Et ou jeudi prochain dans la thématique haute tension, alors à 20h45, 48 heures pour un crime, ça on connaît, c'est déjà passé, hein, c'est un documentaire. On suit les inspecteurs Riquin sur une enquête après un crime et tout, et donc sachant que c'est les 48 premières heures qui sont cruciales pour le dénouement, pour retrouver les indices et tout ça, faire parler les témoins. Suivi à 21h30 de Hold Up. Sinon, il y a Chiche Chong sur TPS Ciné Comédie lundi. Still Smoking, c'est pas le premier. Alors Pink Smoke, c'est le deuxième ou le troisième. Ouais, c'est le troisième. Ouais, c'est celui qui vont à Amsterdam et ils organisent un fumeton généralisé, un concours quoi. C'est lundi à 20h45 sur TPS Ciné Comédie. Comme j'avais trouvé le disque, je voulais passer un morceau, mais on n'aura pas le temps.
Bah on peut. T'as beaucoup de matière pour le ciné, pour le sport.
Non, pas trop. Hein. J'ai du tout venant quoi. Donc ça va pouvoir le faire quoi. Alors file-moi le truc parce que je me rappelle pas. Je crois que c'est le. Faut que tu mettes le morceau qui s'appelle Framed. Alors je me rappelle pas quel morceau. C'est le 5, voilà. Le numéro 5. Chichen Chong donc, hein, avec Tommy Chong, qu'on a vu dans la série That 70s Show, hein, où il joue pratiquement son propre rôle, quoi. Et Cheech Marin, qu'on a vu parce que c'est le protégé de Don Johnson, donc il l'a fait jouer dans sa première série qui s'appelle
Nash Bridges.
Nash Bridges, voilà, hein, c'est Cheech Marin. Hein. Le mec qui est avec lui tout le temps. Quoi.
Ah, d'accord.
Voilà, ouais, ouais, c'est Cheech Marin, qui joue également le rôle du tonton des gamins de Spy Kids. Si, c'est lui, avec Carla Gugino. c'est un des tontons avec Danny Trejo. C'est Cheech Marin. Là, on écoute un morceau donc extrait de la bande originale, le premier film, donc Up in Smoke.
I was sitting in a coffee shop just minding my own affairs when all of a sudden this policeman caught me unawares. He said, "Is your name Pedro?" I said, "Yeah, I guess so." He said, "Then come with me 'cause you're the man we've been looking for." I said, "Hey, man, I've been framed. Hey, no, really, man, I was framed. I never do nothing wrong, man. But every time I get the blame, I've been framed." They put me in the lineup and let the bright lights shine. There was 10 poor dudes like me standing in that line. I knew I was the victim of somebody's evil plan when this scrunchy-looking dude came up and said,
"Yeah, that's him, man."
Hey, wait a minute, man, I've been framed, man. Oh, listen to me, just I was framed. I never do nothing wrong. Oh, but every time I get the blame. Hey, I've been framed. Then the prosecuting attorney started prosecuting on me. That dude gave me the first, second, and third degree. He said, "Where were you on the night of July 29th? I said, "Man, I was home in bed." He said, "Judge, that man's lying." I said, "Wait a minute, man, I was framed, man. Hey, judge, listen to me, man. Really, gotta believe me, I've been framed, man. I never do nothing wrong. Oh, but every time I get the blame, oh, I was framed."
Nous, on est complètement morts de rire.
Ouais, ouais, ouais. C'est la reprise donc du le morceau original de Framed, hein, le classique de Whoop des années 50 de Liber Stoller. Et je vous passerai un autre morceau de Cheech and Chong, mais à la fin de vers 15h, hein, pour faire le joint avec justement Tupac Christopher. Enfin, bon, c'est un classique, hein, de toute façon, t'en fais pas. Au niveau des séries, donc il y a Surface cet après-midi sur TF1 et ça vaut le coup peut-être de regarder vu que c'est les deux premiers épisodes qui sont diffusés. C'est après-midi à partir de 16h10 Surface. Alors bon, c'est un espèce de trip abyss, tu vois, quoi. C'est-à-dire, il y a les pêcheurs et tout, ils sont là dans un lac. Tout à coup, oh là, il y a un truc qui sort de l'eau. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est Jacques Pradel.
Donc, le premier épisode s'appelle Premier Contact. Ouais. Tu m'étonnes. Et le deuxième s'appelle Nemrod. Ah. Ensuite, dans la case série britannique de très haute qualité, on parlait de Doctor Who avant, mais également Miss Marple. Miss Marple, hein,
c'est une mamie,
cette mamie qui est sortie de l'imagination fertile d'Agatha Christie, hein, interprétée par John Hickson, on s'en rappelle, mais John Hickson n'est plus, il a fallu la remplacer, et la BBC n'a pas mis les petits plats dans les grands. Si,
c'était pas
quand
la
même.
BBC qui avait produit, je crois que c'était ITV.
Ouais, enfin une chaîne anglaise.
C'est une des prods de Canada.
Et bien, comme remplaçante, c'est également du haut de gamme, hein, membre de la Royal Shakespeare Company, Miss Geraldine McEwan. Dans une série de 10 téléfilms consacrés aux aventures de Miss Marple, donc avec le casting haut de gamme aussi. Il y a ensuite cet après-midi à 13h15, c'est-à-dire dans 10 minutes là, qui s'appelle Un cadavre dans la bibliothèque de 2005, très récent, hein, les téléfilms. Il y a également Gian Richardson et mardi prochain il y en a un autre de Miss Marple, Meurtre au presbytère de 2004 avec Sœur Derek Jacobi.
Tu as dit que c'était à quelle heure?
4 files.
Tu as dit que c'était à quelle heure? 13h10?
Alors, cet après-midi, là, c'est à 13h15, là. Hein,
ouais, bon, dans 5 minutes, alors. Hein.
Voilà, dans 5 minutes. Et Meurtre au presbytère, c'est mardi prochain à 20h45. Et on verra également dans d'autres téléfilms, Timothy Dalton, Johanna Lumley, ça va, quoi. Hein, c'est pas mal.
Ah, j'oublie le featuring, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Secret d'héritage ce soir, je crois que c'est les deux derniers. Alors là, je t'explique pas, Frédéric, qui s'accuse du meurtre de Bess. Mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi fait-elle ça? On se le demande. Mais plus grave encore, hein, c'est quand même le petit bébé de Rose qui a été enlevé. Et là, on soupçonne quand même la maman biologique. Hein, mais je pense que ça va être les deux derniers là ce soir. Il n'y en a plus que deux, alors que d'habitude, on en diffusait trois le samedi soir. Rien ne va plus, le titre du premier épisode à 20h45 sur Canal Jimmy. Et le deuxième qui s'appelle Le Verdict.
Sinon... Il est temps pour lui que cela cesse.
Alors on nous fait également du basculement du mardi au dimanche en ce qui concerne Boomtown qui était diffusé le mardi,
ouais.
Donc et qui passe et qui, à demain soir,
20h50. Très 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 mauvaise audience parce qu'en face il y avait vraiment de la grosse série ouais. Sur la une notamment.
Ouais, c'est un petit peu dommage parce que bon, je vais pas répéter là encore une fois comment est conçue cette série, comment elle doit être regardée, mais en tout cas c'est une série assez intéressante quand même. Hein, ça vaut le coup. Et moi je pense que ça aurait dû continuer quand même. Ça a été arrêté un petit peu trop tôt. Sinon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu sur Série Club une rubrique digne de ce nom qui parle des séries justement et qui a l'air un petit peu intéressante. Eh bien, c'était le cas. C'est le cas à nouveau avec Secret de série, 30 minutes consacrées donc aux séries avec à chaque fois un focus sur une série. Ça s'appelle Infinity sur Série Club et c'est regardable tous les week-ends. Putain, j'ai pas noté l'heure. C'est de 20h20 à 20h50. Voilà, c'est ça. Donc le samedi et le dimanche. Ce soir à 20h20 donc c'est consacré à la série Las Vegas. Et demain soir, celle-là j'ai déjà vu, elle est vachement bien, c'est consacré au Dr House avec interview des mecs et tout, des différents personnages. C'est vachement intéressant, c'est super super intéressant, surtout si vous n'avez pas vu la version originale sur TV Guide Channel, parce qu'en fait ce sont que des trucs qu'ils ont récupérés sur TV Guide Channel. TV Guide Channel étant la chaîne aux États-Unis
TV Guide
spécialisée dans les séries, surtout
TV Guide, c'est l'ancêtre Télé 7 jours, c'est vraiment une référence aux États-Unis en presse télé.
C'est TV Guide quoi, tu vois. Ensuite Nip Tuck lundi, alors là c'est...
le retour.
Ouais non mais bon, ils pètent à fond les manettes. Déjà le casting haut de gamme avec dans les deux derniers épisodes de lundi dernier, Jacqueline Bisset, ouais, Jackie Bisset. Et Larry Hagman, alors là,
oh
terrible,
non.
Terrible. Larry Hagman, c'est le mec de la Black qui a repris la clinique avec les deux toubibs, la Black que Christian,
l'anesthésiste.
Ouais, que Christian essayait de se faire et tout. Quoi. Ah, c'est terrible, mais c'est terrible, terrible, terrible. Et c'est vachement bien, quoi. C'est vraiment très très bien. Là, ils ont remonté le niveau avec en plus une nouvelle aventure du fils. Alors le fils dans la saison 3, il était enrôlé par une nana qui était chez les nazis. Enfin bon, avec une famille. Super nazi et tout. Là, cette saison, il se fait enrôler pas par une nana, mais il se fait enrôler par l'église de Scientologie.
Ah,
et ça vaut le coup parce que bon, ils appuient bien là où ça fait
ouais,
mal.
Mais
et
est-ce
tout,
qu'ils sont vraiment critiques
C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal quoi. C'est très succinct, mais enfin bon, ça va quoi quand même. Alors lundi prochain, déjà deux épisodes. Alors toujours des noms de personnages de la série, hein, Dawn Budge dans le premier, c'est avec Rosie O'Donnell et Faith Wolper, PhD, bien en l'occurrence c'est Brooke Shields dans donc les deux épisodes de Nip Tuck lundi prochain sur Paris Première. Il y a également mardi prochain sur TPS Ciné Comédie, ça vaut le coup parce que je crois que le film il sort mercredi en fait, le nouveau Picha là.
Qui?
Picha, laisse tomber. Il y a un spécial
Picha. Oh le jota ça.
Il y a un spécial Picha qui est programmé sur TPS Ciné Comédie mardi prochain donc avec c'est con, il manque le meilleur moment, il y a quand même à 22h05 le chaînon manquant de 79. Alors là c'est déjà très très bien, vraiment très très bien.
Ah oui.
Suivi d'un documentaire à 23h25, Mon oncle d'Amérique est belge. Un documentaire de 55 minutes consacré à Picha qui si tu veux, il y a il y avait dans le monde de la bande dessinée belge ceux qui faisaient les choses normalement et ceux qui allaient à fond les manettes, et Picha en l'occurrence faisait partie de ceux qui faisaient les choses à fond les manettes.
Je crois qu'il y a un sujet sur lui,
un premier métrage qui s'appelait Tarzoun, la honte de la jungle.
Oui.
Qui est absolument magnifique, terrible, terrible,
mais qui est énorme,
qui sont des dessins animés pour adultes quand même, il faut préciser les choses hein, parce que bon bah et c'est très cru, hein, y a pas de problème. Donc, mais c'est vraiment très très rigolo, ça se pissait dessus de rire. Donc c'est Picha, c'est lundi sur TPS Ciné Comédie avec le chaînon manquant Si vous l'avez jamais vu celui-là, mais regardez-le, c'est vraiment génial. 22h05, c'est des dessins animés qui font 1h20, 1h30, tu vois quoi. Mais c'est vraiment excellent, excellent. Sinon, un peu plus tard dans la semaine, 13e rue qui nous propose une soirée horreur espagnole. Avec ça, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des films diffusés en salle, mais là, il s'agit de téléfilms produits pour la télé espagnole, en l'occurrence, mais avec deux des très grands noms hein, du cinéma espagnol actuel, Alex de la Iglesia, qui bon, ouais. Laissez tomber, quoi, ouais, j'en parle assez souvent, et Jaume Balagueró, qui est un petit peu moins connu, mais enfin bon, la secte sans nom, enfin bon, tu vois, bon,
c'est un bon. C'est pas lui qui avait fait Intacto aussi?
Peut-être, ouais. En tout cas, bien deux téléfilms donc mercredi prochain sur 13e rue. Le premier est La Chambre du Fils, hein, -12 de Alex de la Iglesia de 2006. Hein, c'est des téléfilms très très récents hein, qui durent 1h20 pour le Alex de la Iglesia avec Javier Gutiérrez et Lenor Watling. Et
oh à 22h10, Lenor Watling.
Et à 22h10,
on la voit à poil dans l'une des derniers films d'Almodovar, là, parle avec elle.
Et à louer, toujours -12 de Jaume Balagueró, 2006, de 1h15 avec Macarena Gomez et Nuria González, entre autres.
Je tiens à marquer un point d'arrêt, c'est que Thomas m'a dit dans n'importe quel BD franco-belge, il y a la scène de filles à poil. Alors, on pourrait en parler, hein, des films d'Almodovar.
Non, elles sont pas totalement à poil. Enfin, c'est pas. Non, franchement, là, tu te trompes.
Oui, c'est ça. Oui, rattrape-toi aux branches. Ouais.
Un petit truc sur le poker, vite fait là, quoi. C'est du sport, le poker, donc on peut en parler. On est en plein dans ça. C'est du sport là déjà, quoi. Il y a
le poker. Je vais foutre à poil Thomas ce soir.
Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plusieurs émissions hein, qui maintenant bon sont récurrentes carrément.
Oui.
Hein,
t'as lu le billet sur mon site, toi.
Nous passe du poker. Non. J'ai simplement ouvert l'équipe magazine de cette semaine. Et donc.
Attends, mais c'est quoi cette merde là? C'est venir, il parle de poker dans l'équipe magazine.
Absolument. Avec donc plusieurs émissions, donc déjà sur Canal+, le World Poker Tour.
Attends, il faut que je mette une ambiance de poker.
Tous les vendredis vers 22h30, rediffusé le lundi à 21h40 sur Canal+ Sport, sur Direct 8. Alors moi, c'est celle que je préfère. Franchement quoi. Et Direct 8 est une chaîne qui gagne à être regardée.
Oui. Thomas, on l'a refait.
Vas-y.
Direct 8. Consonne.
Ah non, pas si. Voyelle.
Direct Voyelle. 8.
Voyelle.
Deux paires.
Brûlant.
Ouais, pas mieux.
Direct 8, donc c'est Direct Poker le vendredi à 21h45, donc quand même concurrence entre les différentes chaînes. Eurosport qui vous propose plusieurs émissions, enfin là il s'agit souvent de rediff, hein, les European Masters, c'est les mardis, jeudi et samedi, vers 23h30. Il y a également la petite chaîne de jeux, là, jeux et télévision, tu sais, la Jet, hein. Qui diffuse le World Speed Open Poker le dimanche à 21h. Ainsi que
attention,
les mercredis,
hein,
jeudi et dimanche à 2h45
du mat. C'est coproduit avec Eurosport. Hein. Jet et Eurosport le font ensemble. Et c'est produit par un grand propriétaire de casino.
Yes,
voilà.
Yes. Il y a également Paris Première qui avait diffusé le tournoi des As, hein, qui va refaire des petites opérations ponctuelles comme ça. Et il y a également les World Series de Poker sur RTL9 le
excellent.
Jeudi à 23h30. Toi, c'est ta préférée.
Avec Michel Abekasi, c'est très très bien. Et là, à chaque fois, il reçoit une personnalité qui connaît un peu le poker. C'était assez étonnant de le voir avec Pascal Bataille, parce que là tout d'un coup Pascal Bataille avait de super questions.
C'est le petit ou le grand?
Le petit.
Bataille, c'est le petit.
Parce que le pognon, c'est magique le pognon. Ça devient tout d'un coup très intelligent les animateurs de TF1. Avec Jacques Pradel jeudi dernier.
Ah bah comme t'es un habitué de Michel Abekasi, eh bien tu vas nous faire
la bio.
Tu vas nous décrypter donc la phrase technique. Sorti à l'antenne, quand on a un short take, il est dangereux de payer avec un roi ou un 4 dépareillé.
Short take, ça veut dire qu'en général, t'as pas franchement un très bon tirage de ton côté. Et que si je me souviens bien, ben, c'est à la river, t'as pas franchement quelque chose de bien. Donc faut pas essayer de chercher justement sur les autres cartes que l'on découvre.
Ok, et
je me suis entraîné pour ce soir. Thomas, je te fous à poil.
Moi, j'ai pas encore
Xavier,
vu les règles.
Et Xavier, quand on floppe un brelant invisible avec quelqu'un qui vous relance avant.
Alors, quand tu floppes un brelant, alors le flop, c'est en fait, c'est les cartes communes que l'on a devant, puisque en fait, donc dans le tournoi de poker en question, c'est une variante qui est assez spéciale qui s'appelle Texas Hold'em, où chaque joueur n'a que deux cartes qui sont à lui, et le reste des cartes sont communes à l'ensemble du jeu.
Ouais, et donc chaque joueur a deux cartes et en met cinq cartes sur le paquet devant.
Voilà, donc ça veut dire quand il flop un brelan, ça veut dire très probablement il a eu une paire, donc il a eu de quoi faire un brelan supplémentaire dans les cartes qui sont communes, et que là il peut essayer de chercher un joueur, il les titille un peu, et donc relancer sur les mises, puisqu'il y a plusieurs tours de mise, il y a une tour de mise quand on a vu ses cartes, et quand on retourne au fur et à mesure les cartes. Voilà.
Ah, c'est terrible, c'est terrible.
Yes!
Terrible,
yes
ah, il est fort quand même.
À la centième, celle-là, hein, je la sentais.
Ah,
oui!
Ouais. C'est lui qui gagne quand même.
J'ai peur pour ce soir.
vous n'avez qu'à jouer au tarot.
Oui?
Je te prends en rami quand tu veux.
Sinon, au mahjong. Hein.
Bon, voilà.
C'est tout?
Ouais.
Moi j'avais un truc à dire juste sur. On a parlé de la série 24 tout à l'heure.
Voilà.
S'est maté l'intégrale de la saison 5 qui est en train de passer sur Canal, qui n'est pas finie sur Canal, mais nous on a vu la fin de la saison 5. Eh ben ça meule sa race à la fin. comment dire, ça finit vraiment en queue de poisson, vraiment c'est merdique tellement c'est gros, mais quand même la conclusion du nœud de l'intrigue de la saison est quand même assez énorme.
Une chose aussi, c'est que la première saison est en cours diffusion depuis lundi dernier sur la TLT. Une. Voilà.
Ça s'appelle. Oui. Non, sur TLT, pas
sur
la
TLT,
Une.
TLT, ouais.
Voilà. Et c'est pas que sur TLT. Ça s'appelle la Barter Syndication, c'est-à-dire un échange de programmes télévisés contre l'espace publicitaire. C'est une régie publicitaire qui propose aux chaînes à une multitude de chaînes régionales, c'est-à-dire dans l'ordre, il y a Clermont Première, la chaîne Marseillaise, TV Tours, Télé Grenoble, TV7 Bordeaux, Télé Lyon Métropole, Canal 8 Le Mans, Télé Miroir Anime et Canal 32 à 3 en plus de Télé Toulouse qui passe en même temps, donc 24, et il y a 80% de pub nationale et 20% de pub régionale, donc c'est une grosse rentrée d'argent. C'est la première fois que Télé Toulouse passe une série télé, si je me trompe, excepté des dessins animés pour enfants. Je ne crois pas qu'ils en aient diffusé jusque là.
Non. Ouais, si, il y avait les fausses séries quand il y avait les Chevaliers du Fiel au début.
Ah oui.
Ah ouais. Les Chevaliers du Fiel, attention, ils passent sur France 4 là bientôt. C'est donc de la Barter Syndication. Ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est un principe qui est très connu aux États-Unis sur les chaînes indépendantes. Hein. Pas mal de chaînes indépendantes font ça quand elles sont pas affiliées à des grands réseaux. Et ça fait ses preuves en Italie et en Angleterre, donc ça est lancé en France. On verra ce que cela donne. Et histoire de faire la coupure avec du sport, Doctor Who, les deux derniers épisodes de la saison 2 passent jeudi et vendredi sur France 4, sachant que le vendredi soir c'est la VO. Et ça tue. On attend les séries filles comme Torchwood et Sarah Jane Adventures. En attendant, si vous connaissez pas Doctor Who, en guise de générique de fermeture, eh ben on va laisser un comique français, comique anglais, vous expliquer en français qui est le docteur.
Téléphone fantastique d'espace. L'intérieur est beaucoup plus grand que l'extérieur. Mais ça, c'est le mystère du Dr. Key. Avec les Daleks, le docteur est supérieur. les ennemis, les petites grenouilles dans les poubelles mobilisantes. Le capitaine des Daleks, il s'appelle Davros. Est-ce qu'il est demi-homme ou demi-Dalek? Demi-Dalek ou demi-homme? Je ne sais pas. Incroyable. Exterminez-vous! Exterminez-vous!
C'est ainsi que se clôt la 100e du supplément week-end, avec du sport, Thomas et moi-même. Mais Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je te prie ?
Oui, tout à fait. Nous avons aujourd'hui appris à arrêter de dire achalandais. Il y a eu un gros compte rendu du 34e festival de la BD d'Angoulême, un plantage dans la prod musicale, une alerte Spice Girl, on a eu un résumé, le résumé hebdomadaire de Secret d'Héritage, deux nouveaux jingles, barrez-vous, et il faut que cela cesse, le retour de Nip Tuck et un sketch pourri sur le poker qu'on vous a resservi.
Nom d'un alpha, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'émission et la plupart des anciens suppléments week-end. On a cherché les suppléments week-end sur le site de Radio FMR, www.radio-fmr.net, ou si vous avez Google et vous savez vous en servir, vous tapez supplément week-end, Radio FMR, MP3. Vous avez toutes les précédentes émissions, même que vous pouvez vous les abonner pour les écouter tranquille au bureau, dans la voiture et quand vous voulez. Et avec ainsi que les chroniques écrites, mais aussi vos commentaires. Alors n'hésitez pas à la suite des programmes sur Radio FMR. Et ben sachez donc que vous allez retrouver Zarma Farai à 15h, 17h Big Bang, 18h Vie d'Ordure, 19h Happy Hour, 20h La C0 Expérience, 21h30 9 Love, et à 23h le concert punk des 25 ans de Radio FMR, celui où je me retrouve avec plein de chantilly sur la gueule. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et tout de suite, ça c'est du sport.
Il a oublié de dire quelque chose. Allez, viens là.
Je l'avais noté, je suis impardonnable. Et maintenant, les fiches sont rentrées. Donc, il y a Melaka et Renaud qui sont en dédicace jusqu'à 18h30, grand maximum. À partir de 15h jusqu'à 18h30, dernier moment. C'est à la librairie Album. Et Melaka, j'ai oublié. Ben, il y a les carnets de Melaka de toute façon. Et Renaud, entre autres, il y a Womox. Et plein d'autres trucs sur la page de garde, dans la partie agenda. Non, la page de garde, Thomas.
Oh, ça va, il va pas faire croire que c'est moi qui ai fait l'erreur. Hein. Alors, page de garde, oui, je vois. Album de 15h à 18h, donc Melaka pour L'Ange Ordinaire et Renaud, l'auteur de Valamont et Womox. Voilà. Et ce soir, à 23h, souvenez-vous, la soirée punk des 25 ans. Si, celle, la soirée où vous avez s'est fait entarter.
Allez, nous on attaque avec le dopage. Et 13h29, c'est toujours Radio FMR 89.1 MHz. Alors, un contrôle antidopage positif à la testostérone pour Olga Samoulenkova. La rameuse a été contrôlée à l'entraînement le 23 juillet dernier. La contre-expertise a confirmé l'analyse de l'échantillon. Ah bon ça, des sportifs, des sportives qui se font gauler
Ça, on le sait, c'est pas nouveau. La première, eh bien, elle concerne la discipline, hein, c'est l'aviron. Et du fait, eh bien, l'équipage russe, le 4 féminin russe qui avait été classé, qui avait obtenu le titre mondial de 4 de couple féminin, c'était en août dernier à Eton. Eh bien, ce quatuor a été déclassé. Donc, et c'est les Britanniques Flood Winkless et Otton Granger qui héritent de ce titre mondial de 4 de couple. Les Russes, ont été éliminés. Et du côté de l'Agence française de lutte contre le dopage, il y a un point qui a été fait cette semaine, en ce qui concerne les contrôles effectués dans le rugby français lors du dernier trimestre de l'année 2006. Du tout frais, quoi, tout jeune, tout chaud. Lors de ces seuls 3 derniers mois, 375 contrôles ont été effectués à différents niveaux de la compétition, contre 475 lors de la totalité de l'année 2006. Cette hausse de sensibilité de répression a donné des résultats significatifs. 19 échantillons contenant des substances interdites ont été comptabilisés, dont 9 6 corticoïdes et 3 bêta 2 agonistes type Ventoline sont soumises à obtention préalable d'autorisation à usage thérapeutique. Il y avait également dans un premier temps un constat de carence, hein, c'est-à-dire une infraction qui consiste à ne pas se rendre à un contrôle qui avait été établi concernant un joueur du top 14, donc du gros quand même, mais c'était une erreur de procédure. Par contre, les 10 cas restants, tous positifs au cannabis, substance spécifique interdite en compétition. Un autre joueur de l'élite serait concerné, tandis que des joueurs de niveau inférieur, dont l'un présentait simultanément des traces de cannabis, cocaïne et ecstasy. Pas les teufs qui se font dans le rugby. Alors pour l'instant, on en est là. À suivre. Là, je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Avec qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Lui, il va pas sauter, hein. C'est un supporter lyonnais qui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis à la suite de heurts survenus après le match Lyon-Nice. Condamné pour outrage et violence aggravée en réunion avec armes sur agent de force publique. 600 € d'amende.
Il est agent secret, mon ami.